Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Papier, une émission de bande dessinée de la station Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Liège qui, si elle inaugurait il y a peu le lancement du Spirou Tour à l'occasion des 75 ans du célèbre Groom, est aussi le lieu d'une scène alternative en constante effervescence qui pourrait lui valoir le surnom de cité ardente du fanzina belge. Après les festivals de Sierre, d'Angoulême, une visite à la librairie Le Mont en l'air à Paris, il était donc tout naturel pour l'équipe de Radio Grand Papier de poser ses micros à la librairie Livre Trésor, que nous remercions d'ores et déjà pour l'accueil. Dans cette citadelle où les livres se défendent, nous aurons le plaisir de recevoir ce soir les auteurs José Parondo, Hugo Piette, Alice Lorenzi et Fifi, ainsi que l'historien Erwin Dejas et le libraire Philippe Marchewski. Nous commencerons cette émission avec les auteurs José Parondo et Hugo Piette. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir Tali.
Bonsoir à tous. Bonsoir José. Alors une présentation en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je pense qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc José, tu es un auteur de bande dessinée, illustrateur et musicien liégeois. Tu as publié plus d'une trentaine de titres, des bandes dessinées à l'association, chez Delcourt aussi avec la série pour enfants Elle les raconte sur un scénario de Lewis Trondheim. Tu es aussi l'auteur de nombreux albums jeunesse, la plupart publiés par les éditions du Rouergue. Ton style graphique, souvent qualifié d'enfantin, est reconnaissable entre tous. Depuis quelques années, je crois, mais je n'en suis pas sûre, tu enseignes l'illustration à Saint-Luc.
Oui, depuis 7 ans. Je crois.
7 ans, donc j'ai bien dit quelques années. Et ton dernier livre, Fort et Wood, avec Olivier Douzou, vient de paraître au Rouergue.
Toi, Hugo, tu es né à Namur et pas à Liège.
Oui, tout à fait.
Déjà, en 1980. Tu grandis bercé par la lecture des classiques de la bande dessinée franco-belge, puis tu découvres les œuvres d'Hugo Pratt, Daniel Clowes, Will Eisner, Lewis Trondheim, entre autres. Tu rejoins la section bande dessinée de l'École supérieure des arts de Liège et démarres ensuite ta carrière professionnelle dans le journal Spirou et la revue Capsule Cosmique lancée par Gwen de Bonneval et ses complices de l'Atelier du Coin. C'est dans les pages de cette revue jeunesse ambitieuse que tu crées les personnages de Poncho et Semelle. À la fin de l'aventure Capsule Cosmique, ton cow-boy et son cheval continuent à parcourir les plaines de l'Ouest dans trois albums parus à la Sarbacane, toujours sous la supervision éditoriale de Gwen de Bonneval. Après un détour par l'album Électrique, Les Arrachés, paru chez Flux Glacial, réalisé à quatre mains avec Xavier Lemens, tu retrouves une nouvelle fois Gwen de Bonneval, mais cette fois-ci en qualité de scénariste. Le premier volume de Varulf, paru dans la collection Bayou des éditions Gallimard et dont nous avons longuement parlé dans une émission précédente, nous propose de découvrir un récit d'aventure médiévale dans lequel un groupe de jeunes gens tente de réchapper à la meute d'animaux sauvages qui frappent chaque nuit leur village maudit.
Tout à fait.
Alors, on va commencer par la première question. Finalement, j'ai recité trois fois Gwen de Bonneval. C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Ça a été comment s'est passée cette rencontre, puisque finalement, j'ai l'impression que je ne sais pas s'il y a une communauté d'esprit quand on voit que ce soit les gens qui l'entourent au moment de Capsule Cosmique ou les projets qu'il fait. Il y a vraiment un sentiment d'esprit de famille où on va retrouver régulièrement les mêmes auteurs qui semblent avoir des préoccupations assez proches.
Oui, je pense que la rencontre avec Gwen de Bonneval, c'était, comme tu l'as dit, Capsule Cosmique. C'est là que j'ai proposé la série Poncho et Semelle. Et c'est vrai que ça s'est tout de suite bien passé. Gwen et Stéphane, il y avait Stéphane Wary aussi, qui s'occupait du journal. Et quand le magazine s'est terminé, les éditions Milan m'avaient proposé d'éditer Poncho et Semelle chez eux. Mais en même temps, Gwen venait d'être nommé directeur de collection chez Sarbacane. Et il m'a proposé de faire la série chez eux. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que, comme tu dis, il y avait une amitié qui s'était plus ou moins installée à ce moment-là. Et puis, je m'y retrouvais plus dans les projets que Gwen avait avec Sarbacane pour Poncho que chez Milan, où je me sentais pas du tout à mon aise là-bas. Enfin, surtout après l'expérience Capsule qui avait été un peu rude quoi, sur l'arrêt du magazine. Et je regrette pas du tout parce que il y avait toujours le même esprit que dans Capsule, mais chez Sarbacane, avec Anouk Ricard, Marion Montaigne, d'autres auteurs. Et je regrette pas quoi. Et par la suite, Gwen, c'est resté quoi.
Quand on parle de collaboration, José, fin des années 90, début des années 2000, tu as commencé à publier des livres aux éditions du Rouergue, dirigé alors par Olivier Douzou. Toujours maintenant, mais après une longue absence pendant 10 ans. Et maintenant, on voit que tu refais beaucoup de livres aussi, Rouergue, avec Olivier Douzou.
Comme par hasard.
Et du coup, je voulais, si tu pouvais nous parler en quelques mots de cette collaboration qui paraît très spéciale, parce qu'on sent vraiment que vous avez peut-être la même vision du livre. Ou...
Je ne sais pas, on est très différents et à la fois, il y a plein de choses qui nous rapprochent. Il y a un premier truc, c'est que il est aussi autodidacte, c'est-à-dire que lui, au départ, il est architecte. Donc, il est venu dans le livre vraiment par goût de la chose, quoi, comme moi. Puis, en tant que directeur artistique, c'est vraiment quelqu'un d'assez unique. Je me souviens de toutes mes expériences avec lui, puis les expériences que j'ai eues après. Je me rends compte que c'est un directeur artistique vraiment très intelligent et très, très habile pour... En fait, quand tu proposes un projet, il arrive toujours à le faire évoluer, mais en te donnant l'impression que c'est toi qui trouves les idées. Ce qui n'est pas fou en même temps, mais il amorce très bien les choses, et c'est pas évident du tout. Là aussi, il n'a pas de formation de directeur artistique, mais il a le bon feeling pour le faire, quoi.
Mmh. C'est vrai qu'un peu comme Capsule Cosmique, c'était une sorte un peu d'avant-garde de la BD jeunesse. Olivier Douzou a vraiment amené... quelque chose de nouveau dans le livre pour enfants avec les éditions du Rouergue. Tu t'inscrivais vraiment aussi dans cette démarche. Il semblait aussi qu'il donnait beaucoup de liberté à ses auteurs.
Oui, mais au début, j'avais très peur. J'étais d'abord un fan des éditions du Rouergue. Donc, c'est les premiers bouquins, c'est quoi ? C'est 93, je crois. Ça fait 20 ans. Et pour moi, c'était un univers inapprochable, quoi. Après, à cette époque-là, j'allais justement... On rejoint l'esprit des fanzines. Je faisais des fanzines et des publications en compte d'auteur. J'allais les présenter à Angoulême tous les ans. Et là, j'ai rencontré Linda Corazza, qui était une des premières filles qui publiait des livres au Rouergue, qui publiait dans un autre fanzine à ce moment-là, et qui m'a dit, parce que j'avais exposé des peintures à moi au mur, dans une expo sauvage à Angoulême, elle m'a dit, mais t'es con, pourquoi t'en vois pas à Douzou ? Moi, je dis, ben non, tu sais, moi, je suis belge, je suis timide, vous n'avez pas besoin de moi, tout ça, enfin, le cirque habituel, quoi, le truc que j'ai tout le temps. Et elle m'a convaincu du contraire, quoi. Donc, du coup, j'ai envoyé un dossier et Olivier a tout de suite répondu, ce qui m'a beaucoup étonné, évidemment. Voilà, ça s'est passé comme ça, de façon très, très naturelle et très, surtout, sans peur, quoi. Je me disais, ça ne marchera pas, bon.
Ouais, il a été très réceptif, en fait, directement à tes...
Il a vu qu'il y avait un truc qui s'était mis en place, parce que je crois que je ne lui ai pas envoyé vraiment d'images séparées, mais plutôt tous les petits livres que je faisais à l'époque, j'envoyais le paquet de livres. Et d'ailleurs, il y a des idées de ces livres-là qui sont retrouvées après dans les petits parondos. Puis j'avais une expo à Paris aussi, vers cette époque-là, et là, j'avais été voir l'expo à travers la fenêtre parce qu'elle était fermée. Donc, mais ça m'avait quand même touché, tant mieux.
Pour continuer à parler justement de ce côté avant-garde, je trouve que ce qui était intéressant avec Capsule Cosmique, c'était cette possibilité de proposer de la bande dessinée jeunesse qui, pour moi, ne prenait pas les enfants pour des idiots. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une volonté de dire que les enfants sont capables d'accepter plus qu'on ne croit à l'époque actuelle, où de plus en plus la bande dessinée jeunesse effaçait toute noirceur, toute violence, tout cynisme, où ça se formalisait. Et puis il y a effectivement cette revue qui arrive avec une vraie liberté et un ton qu'on va retrouver. Quand j'ai lu Punch et Semelle, j'ai par exemple repensé à Samedi et Dimanche que Gwen de Bonnel et Fabien Wellman avaient fait ensemble, où il y a cette volonté d'y aller, de liberté, d'aborder des sujets décalés, par exemple. Et puis, dans ton travail, ce qui est, je me suis posé comme question, quand on voit le côté débridé qu'il y a dans Poncho et Semel, le côté beaucoup plus débridé qu'il y a dans Les Arrachés aussi, qui a un vrai côté rock qui est présent, est-ce que quand tu as commencé à travailler sur Varulf, pour toi, c'était quelque chose, j'ai l'impression qu'on change totalement d'ambiance et ça se ressent graphiquement, on a le sentiment que tu as dû encore chercher quelque chose de différent. Est-ce que pour toi, par rapport à tes travaux précédents et à ce côté de souffle, c'était une expérience qui était plus compliquée à mettre en place ?
Mais déjà, c'était la première fois que je travaillais sur un projet comme ça aussi, dense, parce que c'est quand même un projet qui est en deux tomes, ça fera 180 pages, je crois, en tout. Et l'univers est complètement différent, ouais, de ce que j'ai déjà fait avant. En général, moi, c'est vrai que je fais toujours des projets avec un second degré, avec de l'humour. Enfin, j'espère, j'essaye. Mais là, je voulais essayer, j'avais envie d'essayer autre chose. Donc, tout était nouveau pour moi, travailler avec un scénariste. Que ce soit Gwen, comme je disais tantôt, ça s'est fait. On en parlait depuis un moment, en fait, de faire quelque chose, de faire un livre tous les deux. On avait même planché sur un projet de one shot de Spirou, mais c'est tombé complètement à l'eau. Et puis après, il m'a rebondi sur Varuf, il m'a dit bah, tiens, j'ai une idée, est-ce que ça t'intéresse? Et moi, j'avais jamais fait ça, donc j'ai dit ouais, oui. Et je crois que la différence, surtout, c'est que c'est la première fois que je ne scénarise pas. Donc là, c'est vrai que c'était un peu. J'ai dû m'habituer au début, quoi, à recevoir des scénarios et dessiner dessus. Mais oui, j'ai dû m'adapter, oui.
Et par rapport au style graphique, je trouve que ce qui ressort très fort dans Varulf, quand on en parlait à l'émission du bouquin, moi j'ai repensé à Chaland, par exemple, ouais. Graphiquement. Et finalement, en lisant tous les albums les uns à la suite des autres, je trouvais qu'il y avait, que ce soit la Poncho, sa tête m'a fait penser au jeune Albert, par exemple, mm-hmm. ou même chose, le personnage de Clitorine dans Les Arrachés a un côté très style atome quand elle est dessinée. Et ça semble rejaillir encore plus fort dans Varulf, cet attachement. Ce trait, c'est quelque chose qui t'a fort influencé ou que tu as recherché oui.
Non, je crois que c'est quelque chose qui m'influence depuis longtemps, mais pas seulement Chaland. Il y a Van der Steen, Mamerger. J'ai toujours travaillé un peu dans l'espèce de ligne claire, mais c'est vrai que ça ressort toujours dans mon travail. Bon, j'essaie de quand même m'en dégager, mais par exemple, Varuf, je sais qu'il y a quand même des références. Mais malgré tout, même si ça ne se voit pas, j'essaie quand même de m'en démarquer un maximum. Mais c'est vrai que même dans le ton, c'est vrai que Chaland, pour moi, il y avait des choses qui me plaisaient vraiment, quoi, dans l'humour, dans le scénario. Je trouvais ça incroyable. Je me rappelle que j'avais vu une histoire de Chaland quand j'avais, je sais plus, 12 ou 13 ans. Je crois que c'était dans un métal hurlant et que je trouvais dégueulasse. Enfin, à cet âge-là, je trouvais que c'était horrible, ce magazine. Puis il y avait une histoire de Chaland, je crois que c'était avec des robots, je crois. Et j'avais lu parce que je trouvais le dessin, ça me parlait, quoi. C'était vraiment un truc qui me convenait. L'histoire était horrible aussi. Enfin, c'était... Et c'est resté, quoi. Donc, oui, c'est des choses que j'ai accumulées et qui ressortent dans les bouquins d'une manière ou d'une autre, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement.
C'est intéressant que tu parles d'un rapport entre la beauté d'un dessin et l'horreur d'un scénario. Ouais. Est-ce que dans Varulf, est-ce que tu as tenté de faire quelque chose qui soit au moins séduisant par la forme? En tout cas, dans Poncho, etc., il y a quelque chose qui est clairement axé vers une jubilation graphique qui amène une jubilation dans la lecture, alors qu'ici, on amène des personnages animaliers mm-hmm. qui sont des représentants, qui sont en fait, on s'aperçoit qu'ils sont des enfants et qui sont extrêmement violents. Et donc là, on verse dans quelque chose où la beauté du dessin doit amener vers une lecture et la découverte de quelque chose qui est relativement affreux. Ouais. Parce que c'est important pour toi d'avoir la tension entre l'esthétique et en même temps la force d'une narration.
Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, Poncho, si on regarde juste les images, on a l'impression que c'est une bête histoire avec un cow-boy. Mais moi, ce que j'aimais bien faire, c'était justement dans les dialogues, dans les situations, des trucs complètement absurdes qui pouvaient avoir un décalage avec le dessin. Et dans Varuf, c'est un peu ce que je cherchais aussi. Même si, il y avait le format qui m'influençait aussi, parce qu'il y a beaucoup de pages en 4 strips, et j'ai essayé d'être le plus efficace possible. Donc j'étais assez proche, par exemple, de mon découpage. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le côté décalage entre le fond et la forme, quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Pour revenir à José par rapport à ça, il y a dans ton boulot, dans la partie qui... Il y a quelque chose qui tire vers Glenn Baxter, par exemple, qui est une référence. Je ne sais pas du tout si tu la revendiques ou pas, mais donc cette façon d'amener de l'absurde par le dessin, en retournant un personnage dans une case, donc en amenant un objet tout à fait hétéroclite et impossible. Est-ce qu'on parlait de nouveau là, de la séduction du dessin et du propos? Tu as un dessin extrêmement rond, extrêmement avec le temps qui s'est vraiment léché, qui est devenu vraiment... très puissant dans son style. Et est-ce qu'il y a toujours cette envie de venir amener derrière d'autres émotions par le contenu?
Bah oui, j'espère. En tout cas, quand tu cites Glenn Baxter, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son travail à une époque, mais je pourrais jamais travailler avec un livre de quelqu'un que j'ai aimé sur ma table, quoi. Il faut toujours fermer ce bouquin-là, ne plus lire pendant 3 ans ou 5 ans et attendre que ça revienne après d'une façon ou d'une autre. S'il y a des choses qui m'ont vraiment marqué, je dirais que c'est les Placides Muses aux Poches. Quand j'étais petit, parce que à ce moment-là, j'étais complètement vierge de toute connerie, par la connerie de l'enfant, mais je ne comprenais pas que c'était absurde à l'époque. Je trouvais ça normal, et je me rends compte que ça m'a vraiment marqué, quoi. Je lisais pas trop Astérix ni trop Tintin, donc peut-être que ça joue sur le développement de l'enfant, je sais pas. Et je lisais Placide Muses aux Poches. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en réclame au GB du coin, quoi. Donc au supermarché pour les Français. Voilà, donc ça tient un peu de choses. Et je crois qu'on se forge une espèce d'univers personnel. Il y a aussi les limites de mon dessin, forcément, que je connais très bien. Et je sais que si je veux exprimer des choses, il faut que je fouille l'écriture beaucoup, et que je fouille les sentiments, et que je fouille. Tous les mots sont hyper importants. Des fois, je passe une journée sur un mot. Hein. C'est les mauvaises journées, ça, mais bon, ça peut m'arriver. Pour créer cette espèce de rapport particulier, mais il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont influencé en peinture. Par exemple, il y a Gaston Chessac, Jean Dubuffet, donc plutôt dans l'art brut, ou Picasso, pas du tout dans l'art brut, mais qui voulait peindre comme un enfant aussi, c'était sa volonté. Je sais pas, on va pas parler des influences, c'est très divers, mais dans la littérature aussi, Richard Brautigan, enfin, ça. On rejoint toujours quelque chose d'un peu absurde. Richard Brautigan aussi est un écrivain qui joue avec l'absurde, forcément. Donc, il y a cette volonté, mais en même temps, je suis dans l'absurde parce que je ne sais pas faire autre chose. Hein. C'est pas un calcul. C'est ça ou rien. C'est ça ou bien je fais rien, quoi. C'est la seule chose que je sais faire, je vais dire. Voilà.
Par rapport au dessin, il y a une anecdote qui m'est restée en tête et que je raconte d'ailleurs régulièrement à propos de toi, qui est. Que j'avais acheté le Rimi et Rollo, je crois que ça devait être dans les années 94-95.
50 exemplaires.
Donc tu me l'avais dédicacé, c'est un des rares bouquins que j'ai dédicacé chez moi. D'habitude, je ne demande pas aux auteurs. Voilà. Et donc, tu as appris ce truc, tu as commencé à dessiner. Et donc, Rimi et Rollo, c'est quoi? C'est deux espèces d'œufs avec deux traits et puis des mains. Et sur chaque main, il y avait trois doigts. Et tu avais commencé à faire ce dessin. Et à un moment donné, tu avais dessiné le bras, un bras, puis les trois petits traits. Et soudain, tu t'es arrêté pendant quelques secondes, comme ça, en regardant ce dessin, et tu avais saisi ta gomme, et tu avais gommé un des doigts, et tu l'avais recommencé, parce qu'il n'était pas exactement dans la bonne inclinaison. C'est quelque chose qui je trouvais assez fort, parce que c'est un dessin de synthèse complet, donc il y a vraiment très très peu de choses, mais en même temps, cette chose n'était pas calibrée, tu ne pouvais pas faire de la dédicace au kilomètre, alors que n'importe qui pourrait se dire, bah, voilà, c'est un rond, un bâton, trois petits doigts, et l'affaire est faite. Et là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que arriver même à l'intérieur d'un dessin aussi simple que le tien, il y a un travail de la maîtrise qui est douloureux.
Ben, ça m'affole ce que tu me dis, parce que je pensais qu'à l'époque j'étais plus spontané. Je savais pas que je faisais déjà des trucs pareils à ce moment-là. Quand je revois mes dessins de l'époque, je me dis, ah putain, à l'époque c'était bien, je me laissais aller. Et ça a empiré avec les années, et ça, je sais pas où ça va s'arrêter. Mais c'est vrai que c'est des règles qui sont là, écrites, et qui sont immuables. Et si la main n'est pas bien, il faut la recommencer. Si le rond n'est pas rond comme il faut, il faut le recommencer. C'est pas un rond tout à fait rond, il peut être aplati, mais juste comme il faut, les yeux doivent être au bon endroit. C'est des règles comme n'importe quel dessinateur, quoi. Après.
Ouais.
Quoi? Pourquoi?
Bah, je sais pas, moi, des fois, j'avoue que des fois, si je recommence deux, trois fois une tête, et puis j'y arrive pas. Je me dis je la ferai plus tard, et des fois, j'oublie.
Hein. Mais toi, t'as de l'adresse. Moi, j'ai pas d'adresse, tu vois.
Ouais, je sais pas, non.
Mais c'est de la
manière. Toi, le truc, c'est que si tu déplaces deux points, le personnage change tout de suite, quoi. C'est assez. Si je prends ce personnage-là et que tu t'enlèves la bouche.
On ne le reconnaît plus.
C'est plus le même. Donc, ça doit vraiment être minutieux, quoi.
Et tu te donnes vraiment des contraintes, en fait, parce que ça me fait penser à l'illustrateur jeunesse Dick Bruna, que tu connais peut-être, qui est aussi vraiment dans une recherche de synthèse. De forme très très épurée, et je disais qu'il s'imposait vraiment d'utiliser que certaines couleurs. Il fallait toujours que les personnages soient de face. Il les dessinait jamais autrement que le visage de face. Et me demandais si toi aussi tu avais ces contraintes au niveau de tes personnages, des formes.
Oui, oui, ça m'a affolé, ça a créé des conflits internes au moment du dessin animé d'ailleurs, parce que lors du pilote du dessin animé Aller Raconte, ils avaient repris une histoire d'Aller Raconte, et il y avait un personnage en chinois qui disait bonjour et il se penchait vers l'avant pour faire le signe asiatique. Ça, je me dis, non, c'est pas possible. Ben oui, il doit dire bonjour sur le côté, ou alors, c'est pas compliqué, il se met sur le côté et il dit bonjour, mais il peut pas dire bonjour vers l'avant, c'est impensable. Et puis, je me suis dit, tant pis. Et du coup, il y a eu d'autres choses qui sont revenues comme ça. Et à la fin, je me suis habitué, j'étais un peu violé, quoi, dans mon univers. Puis, mais c'est comme ça.
Oui, c'est le jeu de l'adaptation, d'une certaine façon. Tu dois travailler avec une équipe peut-être plus importante que...
Ben, ils comprennent pas les règles. Après, si je dois dire toutes les règles, ils vont devenir fous, en fait. Donc, ça suffit, je le suis déjà, c'est bon, quoi. Après, c'est ce qui fait quand même qu'une adaptation est fidèle ou pas. Ici, moi, je vois plutôt ça comme une collaboration. Voilà, et il y a peut-être plus de gens qui me connaissent par ce dessin animé-là, mais c'est une collaboration, c'est pas moi. Si c'était moi, j'aurais dû réaliser aussi, enfin réaliser avec Lewis, et puis ça aurait été différent. Quoi.
Oui, on va revenir un peu sur Liège, je pense, puisqu'on va en profiter. Toi, Hugo, tu as fait tes études
à Saint-Luc.
À Saint-Luc. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté personnellement à la base? Comment tu t'es senti par rapport à l'école, justement?
Pour être franc, non, mais franchement, j'ai quand même appris des choses, parce que je suis arrivé, j'étais quand même... j'ai appris des choses, franchement, et j'ai rencontré beaucoup de gens. Ça m'a permis de rencontrer pas mal d'auteurs quand même, et je sais pas ce que je pourrais dire.
T'as appris à voir?
La première année, ouais, parce que j'ai raté ma première année, j'ai dû recommencer. Je ne sais pas. Je suis toujours là, donc je crois que ça, c'est bien la preuve que ça m'a bien plu et que j'ai rencontré plein de personnes. Enfin, je viens d'un village, je suis resté dans le même village jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, faut s'imaginer. Moi, je débarque à Liège. C'était assez incroyable, quoi. Puis, il y a plein de choses intéressantes. J'ai rencontré, je sais pas. Je me rappellerai toujours la fois où il y a Daniel Klaus qui est venu ici avec Chris Ware. C'était incroyable. Je sais pas ce que je pourrais dire, en fait.
Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans Les Arrachés?
Oui, pas les mobilettes, mais les caravanes, oui. Parce qu'il y avait un village, dans mon village, il y avait dans pas mal de villages de la région, de la vallée de la Meuse, il y a des caravanes, des campings résidentiels comme ça, le long de la Meuse. Enfin, maintenant, ils n'existent plus, ils ont tous été quasiment rasés. Mais quand j'étais petit, quand j'étais jeune, il y avait des caravanings, des gens qui vivaient là, ils étaient assez spéciaux, quoi. Et c'est un truc qui restait. Et Xavier, quand on a parlé du projet, lui, c'était plus les mobilettes, les ados, qui allaient faire des virées dans les villages. Donc on a mixé les deux pour faire ça. Mais bon, il y a des choses que j'aimerais bien raconter aussi sur le village. Parce que je suis resté dans mon village jusqu'à 19 ans, parce qu'il y avait un collège dedans, dans le village, un collège jésuite. Je suis resté 7 ans là-bas. Et
ça se voit.
Ouais. C'est peut-être pour ça, tout le côté décalé, c'est que j'avais besoin de
Oui, en fait, t'étais pas un arraché du tout.
Dans une structure, bien comme la ligne claire ou je sais pas, un truc comme ça, mais partir sur le côté, je sais pas. Et quand je suis arrivé à Liège, un des premiers souvenirs que je garderai toujours de mon arrivée à Liège, c'est ma rencontre avec Aurélie William Leveau, qui était une espèce d'extraterrestre qui arrivait. Enfin, je me rappelle, j'étais dans la classe, c'était au début de l'année, avec un professeur qui expliquait, bienvenue en première année, etc. Puis elle est arrivée. J'ai jamais vu une... Enfin, parce que le collège jésuite, il n'y avait que des garçons. Hein, donc, les filles, j'en connaissais 4-5, village. Et puis, il y a Aurélie qui arrive là. Ah, bonjour, t'as l'air sympa, blablabla. Et voilà, on est restés amis. Mais je me rappellerai toujours de... Qu'est-ce que c'est cette fille incroyable. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Aurélie, Fifi. Et puis, j'ai connu Pierre Bailly, Vincent Maty, Raph Meyer... Puis il y a eu l'atelier avec Fifi, il avait un atelier, et il m'a proposé de venir travailler chez eux, et ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas si... Des fois je me dis que j'aurais peut-être pas continué si j'avais pas été dans une petite structure comme ça, avec des auteurs qui travaillent et qui continuent à te motiver dans le boulot. Et une autre rencontre aussi, c'était avec le magazine Mycose, parce que là c'était les premières fois que je publiais des choses, j'avais jamais rien publié avant. Et j'avais fait des planches pour l'école avec Goldorak qui, comment, pour sauver une ville, acceptait de se faire violer. Et chez Mycose, ils avaient bien aimé, ils m'avaient publié. Et j'ai commencé à publier régulièrement dans le magazine et je suis allé à Angoulême avec eux. Donc, encore une fois, ça, c'était une super expérience. Donc, c'est toutes des expériences comme ça qui ont fait que, voilà, je pense que je suis devenu ce que je suis maintenant. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais...
Oui, c'est très bien. Et pour toi, le rapport à la ville de Liège, c'est aussi, j'ai le sentiment, ce côté où les gens, où il y a vraiment une communauté, que ce soit lié à l'école, à la section bande dessinée, et au fait qu'il y a a priori pas mal d'auteurs qui résident à Liège, qui créent une sorte de petite communauté où il y a des interactions qui se font. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, toi aussi, qui participe à...
Bah ouais. S'il n'y avait pas les personnes que j'ai rencontrées en sortant de l'école, je serais pas là, je serais je sais pas où.
Ouais, voilà, pareil.
Hein, comment?
Bah pareil, ouais.
Ouais, ouais. Par contre, c'était une autre époque. Hugo, il n'était pas né à ce moment-là. Ça fait 3 ans.
Mon avis, ouais. C'était en quelle année?
86.
Ah, j'ai 6 ans.
Ok, tu vois, j'étais pas loin, putain, jeune. Et moi, j'avais fait des études de photographie. Donc, j'avais commencé à exposer dans les cafés, dans les sandwicheries, mes photos. Et puis, j'ai rencontré des étudiants, mais plutôt des Beaux-Arts, de l'Académie des Beaux-Arts. Il y avait Phil, Tartampion, Raph, enfin, tous des petits sauvages comme ça qui venaient des Beaux-Arts et qui m'ont tout de suite adopté dans leur cercle. C'était génial. Et du coup, bah, un jour, ils m'ont proposé, tiens, viens exposer avec nous, on va faire un fanzine. Fanzine, je ne savais pas ce que c'était. Exposer quoi? Bon, je vais dessiner, tiens. C'est pour rire, ça paye pas de pain, ça n'engage à rien. Du coup, j'ai dessiné comme ça, quoi, c'était des gravures ou des dessins. Et c'est là que j'ai commencé vraiment ma vie professionnelle. Franchement, l'école avant, bah, si, j'étais dans un truc d'image. La photo, c'est de l'image, mais j'en ai pas tiré grand-chose, hein. C'est comme ça, c'est pas grave. Hein.
Tu as eu cours avec Charlier, je crois, c'est ça?
Non, non, parce que c'était à l'Icadie. C'était une école technique à l'Icadie, donc c'était pas, ah, à Saint-Luc, oui, ni à l'Académie. C'est une école, c'est l'Institut communal des arts décoratifs et industriels. Voilà, il y a une section carrosserie aussi, et je sais plus quoi, photo, machin, cinéma.
T'imagines si ça avait fait carrosserie?
Bah, ce serait super.
des voitures dessinées par, je sais pas.
À l'aérographe, je ferais des BD à l'aérographe. Mais voilà, donc les rencontres, c'est hyper important. C'est vrai que ça, c'était la deuxième moitié des années 80. Le fanzine, ben, il n'y avait pas encore l'association, forcément, mais il y avait des tas de choses que j'ai découvertes par Phil, surtout. Phil, c'est un des auteurs les plus punks qui existait ici et qui était vraiment un fédérateur à l'époque, vraiment. C'est lui qui a permis de faire tout ce qui s'est passé dans le fanzina, dans ce cercle d'amis. Et voilà, c'était il y avait une espèce de truc où on se dit on risque rien, on y va, c'est juste pour rigoler, quoi. Et c'est super important, faire les choses pour s'amuser. Ça, on parlait des ressemblances avec Douzou. Douzou, il me parle tout le temps de ça, il me dit toujours, quand on fait un livre, il faut qu'on s'amuse. Donc, dans un premier temps, Forrywood, on l'a fait en s'envoyant des images par mail d'arbres, quoi. C'est tout, juste pour se faire rire ou pour se lancer des défis. Et il y a plus de 10 ans, avec National Zero, c'était pareil, mais c'était par fax. On s'envoyait des panneaux routiers par fax. Et c'était vraiment pour faire chier l'autre, quoi, pour lui dire, tiens, j'en ai trouvé 5 aujourd'hui. Mais j'en ai trouvé 6. Ce côté amusement, il est hyper important. C'est ce que je dis aux étudiants aussi. Il faut s'amuser. Si on ne s'amuse pas, ça devient un travail mécanique et ça s'en ressent après.
Tu parlais de Forrywood, qui est une sorte d'inventaire d'arbres imaginaires. Et en relisant en fait tes derniers livres, on remarque quand même que le thème de l'arbre est omniprésent depuis la porte déjà.
C'est vrai, oui.
On a un arbre sur la couverture. Alors est-ce que l'arbre, c'est une porte vers quelque chose? Qu'est-ce que ça, c'est le symbole de...
Je sais pas, je cherche pas les symboles. C'est un énorme symbole, l'arbre. Et puis peut-être sans doute que je me suis dit inconsciemment que c'était bien. Je vais dire quelque chose d'un peu, peut-être un peu superficiel et idiot, mais j'aime bien dessiner le bois. Parce que je travaille beaucoup dans les cafés, et je travaille dans un café qui a des tables en bois. Et sérieusement, quand je dessine un motif en bois, je regarde, j'ai pas regardé grand, très loin, je regarde là où je suis, je dessine le dessin du bois. Et c'est rigolo.
Quoi. À partir de planches.
Voilà, oui, vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a moyen de dériver là-dessus, mais j'adore ce truc de se dire je ne peux pas bouger mon regard, ou comme si je regardais un mur et que j'analysais tous les détails du mur en béton. Il y a des tas de choses à voir dedans. Il y a un côté très... C'est un peu comme les entomologistes, quoi, qui se fixent sur un tout petit truc, un tout petit insecte, qui reste des heures dessus. Moi, j'adore ça. Je préfère l'infiniment petit que l'infiniment grand. L'infiniment grand ne me passionne pas. Par contre, tout ce qui est petit, tout ce qui est proche, tout ce qui est rikiki, voilà.
Et voilà, on va vous remercier pour cet entretien, et on va faire une courte pause pour inviter ensuite nos invités suivants.
On termine sur le mot rikiki alors.
Voilà, rikiki. je trouve que ça va bien.
Merci.
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 Merci à vous.